Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia Vignali.
Bonjour Mélanie Gomez.
Bonjour à tous. Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dédié au mieux vivre et à votre santé. C'est tous les jours en direct de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui Julia, qu'avons-nous au programme?
Eh bien Mélanie, on va commencer ce matin par se poser la question suivante. Et si les philosophes pouvaient nous aider à améliorer notre quotidien? Comment faciliter notre vie grâce à Descartes, à Kant ou à Voltaire? Pour en parler, nous recevrons la philosophe Marie Robert qui dépoussière cette discipline et la rend même sexy, vous l'entendrez.
Et puis Julia, à 11h35, ce sera notre dossier santé du jour consacré aujourd'hui à l'épilation définitive. Beaucoup de femmes en rêvent et même des hommes aujourd'hui y font appel. Avec notre invitée, la dermatologue Laurence Netter, nous ferons le point sur les différents types de lasers pour se débarrasser des poils, comment ça marche et le résultat est-il toujours définitif? On vous dira tout.
Ensuite, Mélanie, à midi, dans notre séquence tendance, la chronique gastronomie du jour sera portée par Margot Grossman. Elle va nous présenter aujourd'hui ce qu'est un bon porridge. Fini la bouillie d'avoine toute triste, tout ça. Au petit déjeuner ou même en plat complet, on va vous le twister le porridge. Ensuite, comme tous les mardis, on va se bouger les fesses avec notre coach sportif Jean-Marc Delorme. Aujourd'hui, il va nous initier aux bienfaits de la marche nordique.
Et puis, on clôturera cette séquence tendance en beauté avec les conseils de notre docteur beauty, le docteur Aurène Marco. Avec lui, on va réfléchir aujourd'hui à une question importante. La médecine et la chirurgie esthétique, quand on en fait, cela doit-il rester secret? Les mentalités ont-elles changé de ce côté-là ces dernières années? Il nous dira ce qu'il en pense.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 et dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre, aujourd'hui on va se poser ensemble cette question: et si la philosophie pouvait nous aider dans notre quotidien?
Oui, c'est vrai que dit comme ça, j'ai du mal à saisir comment Kant, Descartes ou même Voltaire pourraient bien faciliter ma vie professionnelle par exemple, ou même familiale, mais on ne demande qu'à voir ça. Alors avec lui aussi justement, il est curieux, je suis sûre que ça va l'intéresser, il parcourt les rues de France et de Navarre pour donner la parole à tous les Français sur les différents sujets de l'émission, c'est Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour Clément. Bonjour tout le monde. Et déjà, merci, j'adore effectivement ce sujet. La philosophie, ouais, pour moi est sous-côté déjà à l'école parce qu'on la commence qu'au lycée et il y a des lacunes. Vous allez voir, je suis parti voir les tout petits. Je leur ai demandé c'est quoi la philosophie. Vous connaissez le mot, la philosophie?
C'est quand on perd ses cheveux. Quand on est vieux, bah, on se rase la tête, du coup, bah, on est chauve.
Quand on est chauve et qu'on perd ses cheveux.
Ils ont confondu alopécie et philosophie.
Voilà. Ou la calvitie, je ne sais pas du tout. Donc je leur ai dit, bon,
peut-être parce que c'est un truc de vieux chauve. Hein,
peut-être. Qui sait. Eh ben, vous ne croyez pas si bien dire, parce que je leur ai montré un petit peu qui étaient les philosophes. On a commencé avec Socrate, Platon, Aristote, Spinoza. Je leur ai même montré des sculptures, des photos. Alors les enfants, ça ressemble à quoi pour vous un philosophe?
Pour moi, c'est peut-être un intello de la science. C'est quelqu'un qui a des lunettes rondes, qui a des bagues et qui bave.
Oh, qui bave.
Bah, je sais pas, ils ont vu à mon avis différents philosophes, ils ont googlisé, au moins il y avait une démarche, il y avait une approche.
Ouais.
Après j'ai été interrogé les plus grands, je me suis dit je vais peut-être trouver là aussi des passionnés qui vont me parler de philosophie, de Nietzsche, de Kant, je ne sais pas, pas du tout.
La philosophie, de toute façon, moi je pense que ça sert à rien, parce que les trois quarts du temps t'es hors sujet.
Ah oui, parce que la philo, ça nous ramène à finalement notre seul vécu, notre seule histoire
l'année
avec
terminale.
La philo, l'année de terminale et le bac philo. Alors je me suis dit, je vais orienter cette question vers un sujet que tout le monde connaît, ce qui parle. C'était quoi votre sujet au bac philo et comment ça s'est passé?
La culture dénature-t-elle l'homme? Et j'étais super confiant quand j'ai commencé, parce que j'avais que des bonnes notes pendant l'année, et ben j'ai eu 7.
Je ne me souviens pas du tout de mon sujet de philo au bac, je me souviens juste de ma note, 8. 8 sur 20, alors que j'étais en section littéraire, je n'étais pas très fière de moi.
Alors je me souviens plus de mon sujet, mais je me souviens très bien de ma note. J'ai eu 6.
L'homme est-il condamné à se faire des illusions sur lui-même? J'ai eu une très bonne note, j'ai dû avoir 13 ou 14. J'ai toujours été bonne en philo.
Je me rappelais plus vraiment, mais c'est un commentaire de texte et c'était « Suis-je ce que mon passé a fait de moi ?» Bon, et ben, moi j'aime beaucoup la philo, et la philo même pas du tout, parce que je crois que j'avais une note vraiment 2-3, quelque chose comme ça.
C'est marrant, hein, moi c'est pareil, je me rappelle pas du sujet, mais je me rappelle que j'ai eu 16, et que j'étais en L, et que du coup ça m'a donné la mention.
Bravo, bravo, voilà. Mélanie.
Vous rappelez votre sujet, vous, je crois.
Oui, peut-on rire de tout? Et j'avais lu le livre de Bergson et j'avais fait un peu ma faillotte et ça avait assez bien marché, je crois. Ouais.
Bravo. Et ben j'ai trouvé quelqu'un qui justement a une très bonne note, qui s'y connaît en philosophie, en tout cas c'est ce qu'il m'a dit quand je lui ai tendu le micro. C'est quoi votre rapport à la philosophie, vous?
Moi, je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé.
Donc pour beaucoup, quand on parle philosophie, c'est Amel Bent. Donc ouvrez-nous d'autres champs, s'il vous plaît.
Merci Clément, c'était magnifique. Merci pour cette belle enquête philosophique. Pour amorcer notre entretien avec notre invité, ça va, elle est toujours là, elle n'est pas partie. Aujourd'hui, c'est vous, Marie-Robert, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes philosophe et l'auteur des livres Le Voyage de Pénélope, mais aussi Les Chemins du Possible aux éditions Flammarion. Vous avez également un compte Instagram Philosophie is Sexy. Alors, première question, la philosophie, c'est une matière qui vous a plu tout de suite ou pas? Dès la terminale, même avant?
Alors déjà, je voudrais préciser, je ne baffe pas. J'ai encore mes cheveux.
Vous êtes très jeune.
Et je n'ai pas de lunettes. C'est déjà une bonne nouvelle. Oui, moi, la philo, j'ai toujours l'impression d'être le service après-vente de tous les profs de philo.
C'est ça.
Partout où
on
je
a été traumatisés.
Exactement. Mais moi, la philo, en fait, m'a plu depuis le départ, mais sans savoir que je faisais de la philo. Et ma conviction, d'ailleurs, c'est que la plupart des gens, et même ceux de tous les témoignages, se rendent pas compte. On condense la philo à l'année de terminale, où c'est un peu spécifique quand même, déjà parce qu'on fait plutôt de l'histoire de la philosophie ou de la philosophie par notion, mais on n'est pas forcément en train de pratiquer. Et moi, dès le départ, dès 5-6 ans, j'avais des questions métaphysiques hyper fortes, mais comme plein d'enfants d'ailleurs.
Bien sûr.
Pourquoi la mort? Pourquoi la vie? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que le désir? Donc en fait, tout d'un coup, arrivé en terminale, et je m'en souviendrai toute ma vie, au mois de septembre, j'ai découvert qu'il y avait une matière où on pouvait se poser toutes ces questions. Donc évidemment, j'ai pas du tout eu cette approche. Le reste, c'est de la méthodo, c'est de la méthodologie, etc. Mais avoir la possibilité de se dire tous les questionnements qui me traversent, et là, nos auditeurs, mais nous aussi autour de cette table, on en a plein toute la journée, bien c'est peut-être pas autre chose que ça, que de pratiquer la philosophie. C'est pas que devenir expert, c'est vraiment interroger le monde.
Mais de là à dire, Marie-Robert, que c'est sexy, la philo, bon, on a compris, vous ne bavez pas,
moi,
vous avez pas de lunettes,
moi, j'avais
vous avez
un prof
cheveux.
De philo hyper sexy.
Lui était sexy, mais la matière, moi, je crois que j'ai jamais mis philo et sexy dans la même phrase. Éventuellement, Clément Lanoux est sexy, ça oui.
Oui, hein, mais... merci de l'avoir mis, déjà. Non, mais c'est quoi la définition? C'est se poser des questions, ça suffit à faire de la philosophie?
Alors, y a deux, là, vous avez quand même deux questions. Hein. Je vais essayer d'y répondre, mais vous allez voir, elles se rejoignent. La première, c'est que la philo, évidemment que le premier point, c'est poser un regard de curiosité sur le monde. Ce qu'on appelle philosophie, c'est ami de la sagesse, très littéralement, mais la sagesse, c'est pas du tout rester sage dans son coin et obéir gentiment. Au contraire, c'est la sagesse du questionnement, d'ouvrir les yeux et de se dire « Mais tiens, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est quoi le désir? Qu'est-ce que je fais de ma liberté ?» Donc c'est vraiment ouvrir à l'étonnement. Donc ça déjà, c'est la première chose. Et qu'y a-t-il de plus sexy que l'étonnement?
Qu'y
a-t-il de plus sexy que quelqu'un qui est capable d'ajuster, de penser, de raisonner? En fait, en prenant ce nom il y a fort longtemps, parce qu'en fait, philosophie sexy, je l'avais mis en compte Instagram, mais à l'origine, c'était le nom d'une revue que j'avais créée à la fac, pour justement rappeler que qu'est-ce qu'il y a de plus séduisant que quelqu'un qui est capable de décortiquer et d'analyser. Et c'est vraiment ça le but. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre encore plus aux jeunes générations. Donc, évidemment, on peut ne pas baver, mais aussi réfléchir.
Marie-Robert, franchement, c'est quand même beaucoup plus simple.
C'est beaucoup plus simple, sexy. Mais est-ce que vous avez eu la chance, vous, d'avoir un bon prof de terminale? Ou il n'était pas terrible?
C'est très déterminant, je trouve ça, quand même.
Oui, c'est très déterminant. Alors, moi, je rends toujours, chaque jour de ma vie, hommage à Odile Dupont, qui était ma prof de terminale, et qui n'était pas du tout la prof charismatique qu'on peut imaginer dans le cercle des poètes disparus.
Oui.
Parce qu'on imagine toujours que le prof de philo génial, c'est celui qui t'emporte. Non, elle avait en fait, ce qu'il y avait de fascinant, c'est qu'elle laissait l'espace, justement,
pour réfléchir,
aux élèves pour penser. Elle n'était pas en train d'imposer son propre charisme et sa grandeur et ce côté un peu « je remplis ma faille narcissique » que les profs ont parfois. Mais au contraire, elle laissait de l'espace et elle montrait que oui, c'est compliqué, et c'est trop bien que ce soit compliqué, parce que la vie l'est.
Et on va bien se prendre la tête tous ensemble.
Marie-Robert, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous. On va voir plus en détail comment finalement la philosophie est partout dans notre quotidien. Comment, grâce à elle, on peut expliquer, par exemple, des choses simples, hein, comme notre attirance pour les feux de cheminée. Ou alors, comment la philo peut nous aider à surmonter certaines épreuves de la vie. On y revient dans un instant, et je vous conseille de rester avec nous, parce que la philo, elle est très sexy ce matin sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1,
Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on tente chaque matin de vous faciliter la vie, de rendre votre quotidien plus doux. Et aujourd'hui, c'est grâce à la philosophie, j'en viens pas de dire cette chose-là, contente de faire tout cela. Pour en parler, nous sommes toujours avec Marie Robert. Je rappelle que vous êtes philosophe et l'auteur du livre du roman Les chemins du possible, qui est la suite du Voyage de Pénélope paru chez Flammarion, les deux. Vous aviez déjà écrit des livres, mais c'est la première fois que vous écrivez des romans. Pourquoi ce passage à la fiction?
Alors en fait, quand j'ai écrit mes deux premiers livres, qui étaient donc 12 situations de la vie quotidienne et 12 regards philosophiques pour y répondre, j'ai adoré le faire et j'avais vraiment envie que ce soit une philo très ancrée dans le quotidien, avec des cas pratiques, des choses vraiment qui nous concernent tous. Mais en fait, je me suis rendu compte que la partie que je préférais écrire, c'était, il y avait une petite histoire et après une petite leçon de philosophie, très accessible, mais c'était dans ce genre-là. Et je me suis rendu compte que j'adorais écrire la partie récit parce que, et je sais pas si vous en avez cette impression, là, mais j'ai l'impression qu'à travers une histoire, on s'approprie bien plus facilement les concepts. Qu'en fait, on vit à travers les personnages et que, sans s'en rendre compte, on est en train de faire ce qu'on se disait, c'est-à-dire se questionner, s'étonner, se dire « Oh, mais moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Mais qu'est-ce que je traverse ?» Et donc, j'ai eu envie, à travers ces deux romans, qui peuvent se lire totalement indépendamment, c'est pas tellement une suite, de prendre un personnage, Pénélope, et Pénélope, c'est un peu nous tous, c'est d'ailleurs pas forcément qu'on soit femme, quel que soit notre âge, peu importe qu'on soit une femme ou un homme, et qui va essayer de traverser les grands moments de vie. Alors, la rupture, la naissance, la séparation, et qui, de crise en crise, mais on en vit tous des crises et le quotidien.
On s'en remet.
Ouais. Mais pour s'en remettre, parfois, il faut prendre justement ce pas de côté, s'interroger, laisser infuser. On a l'impression que tout doit se résoudre en 3 secondes, qu'on claque des doigts, que ça va. Non. Parfois, c'est bien nécessaire. Donc, j'avais envie de voir presque des récits initiatiques, en fait. Voir la transformation du personnage. Et je trouve que la fiction est le plus bel espace pour ça.
Marie Robert, est-ce qu'on vous a déjà dit, des philosophes, des confrères ou consoeurs philosophes...
Des messieurs sans
cheveux qui bavent, que vous vulgariseriez trop la philosophie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a déjà reproché?
Bien sûr, on l'a déjà reproché, évidemment. Et je leur dis, pour moi, je me vis comme une passerelle. L'idée n'est pas du tout qu'on s'arrête à la lecture de mes livres, l'idée... c'est que mes livres permettent d'oser le reste. La philosophie, et on l'a vu dans les petits micro-trottoirs, les témoignages, et puis ceux qui nous écoutent ont sans doute cette image-là, c'est poussiéreux, c'est élitiste, c'est très bourgeois, c'est très masculin. Et j'avais envie de montrer, mais en fait, on peut oser s'emparer aussi, aller dans cet espace. Mais pour le faire, il faut parfois qu'on nous prenne par la main. Et je sais que, et moi j'ai plein de témoignages de lecteurs qui me disent « Oh, votre livre, ça m'a donné envie d'aller acheter peut-être Simone de Beauvoir, d'aller oser ouvrir. » Il y a toujours quelque chose de saisissant dans les librairies. La partie littérature, on ose regarder la 4e de couverture, on se balade. La partie philo, silence de cathédrale. On a l'impression qu'il faut vraiment... savoir exactement ce dont on parle. Moi, j'ai envie d'être une passerelle. Et je crois que la philo, si on la vulgarise pas un peu, va complètement disparaître. Et j'ai envie qu'elle vive.
Alors, vous avez dit le personnage de votre roman, Pénélope. Donc, elle est Pénélope, elle est une femme, mais elle pourrait être n'importe qui. Néanmoins, Pénélope, elle commence son voyage initiatique à l'âge de 30 ans, après une rupture amoureuse et après avoir quitté son travail. Est-ce qu'il y a un moment idéal, selon vous, dans la vie, pour faire cette espèce de quête philosophique?
En fait, j'ai pris l'âge de 30 ans, sans doute parce que c'est un moment où on arrive à la fin souvent d'une formation d'études, on a commencé à travailler, on est un peu plus installé dans la vie, et tout d'un coup, justement, on se confronte à la complexité. C'est difficile, en fait. C'est difficile de vivre avec quelqu'un, ou c'est difficile d'être célibataire. C'est difficile de tout d'un coup devoir faire des choix de vie qui sont plus décisifs. Des enfants, un travail, etc. Donc je crois que 30 ans est un âge où... l'étonnement revient. Parce qu'on le disait, la philo, on la commence à un âge normalement à 17-18 ans, où on n'est pas du tout là-dedans. Alors soit il faudrait la commencer beaucoup plus tôt, soit bien après. Ouais. Parce que c'est pas le moment où on perçoit la nécessité. Et 30 ans, c'est l'âge de la nuance, c'est l'âge où on doit s'approprier, se dire vraiment « Où suis-je ? Où vais-je ? Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire ? Comment je me positionne dans ce monde ?» C'est véritablement ça.
Et selon vous, Marie Robert, tous les aspects de notre quotidien peuvent faire l'objet d'une dissertation de philo. Comme disait Mélanie tout à l'heure, même l'attirance qu'on peut avoir, par exemple, pour les feux de cheminée. Alors ça, je veux bien que vous me racontiez en quoi.
Vous aimez ça, Julia aussi ?
J'adore, je suis complètement...
On est hypnotisée
par un feu de cheminée.
Et bien justement, exactement, il y a 2-3 jours, ce week-end, j'écrivais un post Instagram sur la question, parce que je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on soit si...
On s'est inspiré de ça.
brûlée par les feux de cheminée.
C'est vrai.
Et donc, en me questionnant, j'ai repensé à une phrase de Rousseau qui dit « Mais l'origine de l'humanité, c'est se réunir autour d'un feu de cheminée. C'est laisser tous ces murmures, laisser toutes ces paroles. On s'est réchauffé, en fait, près du feu de cheminée. Et pas seulement réchauffé parce qu'il y avait le feu, on s'est réchauffé parce qu'on était ensemble. » Et ce que j'aime, justement, ma conviction, c'est que le regard philosophique, et encore une fois, c'est pas devenir expert, c'est pas devenir universitaire, bien entendu que le travail de recherche est autre chose, mais le regard philosophique, on peut le placer sur absolument tout, dès lors qu'on se dit, tiens, pourquoi ?
Ah, c'est génial, je comprends mieux effectivement pourquoi
vous aimez la philosophie.
Ah,
vous voyez,
je suis captivée là, mais par Marie-Robert, là, le feu de cheminée, c'était ce week-end. Qu'est-ce que ça apporte la philosophie, Marie-Robert, dans la vie de tous les jours ? Ça permet de prendre de la distance, ça change notre regard sur les choses, j'imagine aussi. Donnez-nous peut-être quelques exemples. Là, on a parlé du feu de cheminée, mais on
oui,
peut pas...
je crois que ça nous permet, en fait, fondamentalement, je crois que ça nous permet de. Je dis souvent, c'est un pas de côté, c'est une bulle de respiration. Mmh. En fait, quand même, la vie est compliquée, et puis les deux dernières années qu'on vient de vivre nous ont quand même particulièrement confrontés, hein, moralement, tout d'un coup on perd pied, eh bien la philo ne nous donne pas une méthode toute faite, ne nous dit pas lève-toi à 5 du mat, fais ceci, fais cela. Nietzsche n'est pas du Miracle Morning, je le répète. Mais par contre nous dit, tiens, est-ce que tu pourrais pas voir les choses d'une autre manière. Donc, par exemple, Pénélope sur la naissance, parce que le personnage de Pénélope, dans Les Chemins du Possible, se pose des questions sur la maternité, et se dit, c'est pas si évident que ça, qu'est-ce que ça veut dire devenir mère ? Est-ce que, comment je trouve ma place de fille ? Comment je trouve ma place de mère ? Qu'est-ce que c'est cet être qui, tout d'un coup, vit dans mon ventre ? Et je trouve que, même si qu'on soit heureux ou non d'une situation, pour se l'approprier, pour bien la vivre, pour retrouver sa cohérence, on a besoin de se poser des questions.
Et est-ce que vous pensez, Marie, qu'il y a des philosophes qui sont plus adaptés à certaines situations de la vie ? Je pense notamment, vous parliez de rupture tout à l'heure, sur les relations amoureuses. Est-ce qu'il y en a un que vous pourriez nous conseiller ?
Alors, tout dépend de l'état du moral.
S'il est mauvais, par exemple.
Alors, Kant nous dira que, de toute façon, l'amour est déraisonnable.
Bon, okay.
Donc, de toute façon, qu'il faut mettre à distance, puisque la passion va au contraire, nous faire flancher et nous enlève la raison. Donc, Kant nous inciterait, au contraire, à retrouver un peu de rationalité dans tout ça et à nous poser la question, mais pourquoi je me mets dans un état pareil pour l'amour ? Bon, cela dit, Platon, lui, nous dirait qu'il faut continuer à chercher l'âme sœur, puisque de toute façon, le mythe d'Aristophane nous pousse à nous dire que quelque part dans ce monde, nous avons notre moitié. Donc là, évidemment, sur l'amour, on a cette perspective-là. Mais en fait, sur tous les sujets, sur la honte, j'adore Jean-Paul Sartre sur la honte. On a tous, je ne sais pas si c'est votre
quand
cas,
j'ai tapé la honte,
envoyez
évidemment.
Un texto à la mauvaise personne.
Évidemment,
ah oui, ce moment absolument terrible,
où
on est mortifié, on a envie de se cacher sous la table. Eh bien, Sartre nous dirait, en fait, c'est pas ton interlocuteur, le problème, c'est nous-mêmes. On s'est vu d'une certaine manière et on n'aime pas trop ça, mais si on en profitait pour faire notre petit examen de conscience. Parce que si on l'a fait, c'est que quand même, il faudrait réfléchir. Peut-être que cette personne à qui on a envoyé un texto et on a trop la honte, peut-être qu'elle a plus de place dans notre vie, ou peut-être qu'on pourrait lui parler directement.
C'est drôle.
Lui proposer un café.
Dernier petit exemple de la vie quotidienne, je crois même qu'on peut s'aider de la philosophie pour surmonter la mort de son animal de compagnie. C'est vrai ça, sérieusement, avec quel philosophe par exemple ?
Oui, je trouve que c'est un moment très marquant en fait. Parfois on le sous-estime, mais pourtant la mort d'un animal de compagnie nous renvoie non seulement à la tristesse de tout ce qu'on a vécu avec lui, mais aussi à la mort en général, en fait. Il y a toujours toutes les pertes dans une perte.
On s'en rappelle, hein, c'est très marquant.
Oui, c'est très marquant. Et donc, j'aime penser à Heidegger, un philosophe allemand, qui, lui, n'est pas forcément... sa pensée n'est pas forcément la plus accessible ni la plus sexy, mais pour autant, il nous explique que c'est la pensée de la mort, c'est la projection de la mort qui nous donne aussi cette perspective de la vie. Et en fait, être là pour la mort, c'est aussi se rendre compte, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma journée ? Qu'est-ce que je vais faire de mon quotidien ? Qu'est-ce que quelle intensité je vais donner ? Parce que justement, on est projeté vers la mort. Et je trouve que se rappeler de ça, c'est peut-être tout d'un coup, même quand on vient de perdre un animal, c'est se dire, tiens, aujourd'hui, comment je vais consacrer un peu de vie, de force de vie.
Marie-Robert, vous restez avec nous, on a encore pas mal de questions à vous poser, nos auditeurs également. D'ailleurs, n'hésitez pas, on vous donne la parole dans cette émission. Vous pouvez nous laisser vos questions au 3921, notre répondeur, ou encore sur les réseaux sociaux, par exemple sur notre compte Instagram.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez ce matin, nous sommes toujours en studio avec la philosophe Marie-Robert qui nous explique très concrètement comment la philosophie peut nous aider dans notre vie de tous les jours. Alors Marie-Robert, vous avez écrit ces livres pour qui en réalité d'ailleurs ? Pour vos élèves peut-être aussi, ils les ont lus ?
Alors, évidemment, le point de départ, quand on est prof, je pense qu'on pense toujours un peu à ses élèves. Et puis, j'avais les deux premiers, notamment sur les situations de la vie quotidienne, j'avais envie de leur faire ce cadeau-là aussi, de leur ramener la philo à des choses très concrètes et puis de les amuser un peu. Je crois que les deux autres, le voyage de Pénélope et le chemin des possibles, j'ai voulu justement décloisonner vraiment la philo et l'ouvrir à tous ceux, je dis le premier, la question initiale, c'était tous ceux qui un jour ont dû quitter leur port d'attache, en fait. Je l'écris pour tous ceux qui un jour se sont dit « Tiens, là je suis plus à ma juste place, je suis plus au bon endroit, je dois y aller ». Donc qu'on soit un homme, une femme, quel que soit l'âge, c'était vraiment cette démarche-là. Et celui-ci, les chemins du possible, après la fuite, bien vient le temps de la construction. Donc j'avais envie de poser une question pareille initiale. Moi j'écris avec un point de départ, c'était « À quoi donne-t-on essence ?» Je crois qu'aujourd'hui on a tous besoin là, d'être dans l'action. On vient de traverser une période très dure, très éprouvante, assez paralysante. C'est pas tout à fait fini. J'avais envie d'un appel à l'action, à l'envie, au projet, à oser vraiment mettre en place, donner naissance à des choses. Donc c'est vraiment très tout public en fait, et c'était la démarche.
Alors vous parliez de cette période compliquée qu'on vient de traverser, vous pensez que les différents confinements nous ont amenés vers plus de philosophie ?
J'en suis absolument convaincue. Malgré nous, que ça a été d'ailleurs pour certains une période positive, pour d'autres une période très éprouvante, on a été confrontés à la démarche même de la philo. Un, l'introspection, parce que tout d'un coup, pas le choix. Je suis un peu obligée de regarder ce qui se passe à l'intérieur et puis écouter un peu toutes mes pensées, tout ce par quoi
je suis traversée. Si j'ai pas envie d'écouter, je me mets à faire du pain. Hein, parce que...
c'est l'autre manière, effectivement. Et puis aussi, la philosophie est une discipline d'incertitude. Puisque je le disais précédemment, c'est pas une méthode toute faite, ça va pas te dire « Ah oui, alors ça c'est vrai, alors il faut faire ci, il faut faire ça ». Non, on a les mains dans le cambouis de l'humain quand on fait de la philo. On a les mains dans la complexité et ce qu'on vient de vivre n'est pas autre chose qu'une grande, grande zone de turbulence et d'incertitude. Donc la pensée philosophique est un accompagnement extrêmement bénéfique.
Alors vous enseignez la philosophie à des lycéens, mais est-ce qu'on en a parlé un tout petit peu avant, on ne devrait pas finalement étudier la philosophie beaucoup plus tôt? Je crois que dans les écoles Montessori que vous fondez, c'est le cas. Hein.
Tout à fait. Moi j'ai enseigné à la fac, puis au lycée, puis maintenant je donne des cours sur Zoom à tout public. Et effectivement, j'ai créé 3 écoles où on commence la philo dès 4 ans. Oui. Donc j'y étais d'ailleurs
hier. Et c'est quoi les sujets alors quand on a 4 ans?
Ah ben non, mais extraordinaire en fait. Ce sont exactement les mêmes notions finalement que pour le bac, simplement traitées avec beaucoup plus de spontanéité et d'envie. Parce qu'en fait, à partir de 4 ans, et vous vous en souvenez peut-être avec vos enfants, on se pose des questions sur le fonctionnement de la vie en fait. Donc par exemple, hier, on abordait...
Ma fille a 4 ans, alors je vous écoute,
la question de l'amitié. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un ami?
Ouais. Mais moi, tous les jours,
qu'est-ce
ça change.
Qu'est-ce qu'on fait pour
hein.
un ami?
Il y en a pas beaucoup.
Bien sûr.
Un jour,
c'est
les copines,
une période
le
où, ouais. Ah non, on se parle plus.
T'es plus mon ami.
T'es plus mon ami. Donc, on questionnait l'amitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait avec un ami? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dans le cœur quand on est ami avec quelqu'un? Pourquoi c'est différent d'être copain? Donc, ces questions-là. La semaine d'avant, on parlait de la question de les chefs. Donc alors là, c'était vraiment
à
mourir de rire parce qu'il y en a qui disaient non, moi je veux vraiment être chef. Je m'en moque de la responsabilité, je veux vraiment être chef. Et il y en a un autre qui disait ah non, moi j'ai besoin d'un chef parce que je ne peux pas prendre de décision.
Oh,
et en fait, finalement, on commence par une histoire et ensuite je les laisse s'approprier justement l'histoire et discuter entre eux. Et en fait, c'est formidable parce que ça leur apprend, un, à argumenter, du vocabulaire, parce que évidemment pour argumenter, il faut un peu de vocabulaire et surtout, ils se rendent compte d'une chose, c'est qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on n'a pas les mêmes regard, c'est qu'on n'a pas les mêmes avis et qu'il faut apprendre à écouter, à nuancer, à affronter la complexité.
Si on avait tous commencé à 4 ans,
on aurait
peut-être plus aimé la terminale. Hein.
Exactement.
Alors, on a une question de Perrine hein, sur Instagram qui nous dit « Ma fille de 16 ans ne s'intéresse pas du tout à la philosophie et ses résultats scolaires sont catastrophiques. Comment l'aider à s'y mettre un peu ?» Je demande même si vous ne pouvez pas lui donner des cours particuliers, mais a priori, il y a des zooms. Hein, déjà, on lui répond.
Il y a des zooms le
mais
mardi
comment on motive,
de 18h30 à 20h. Exactement. Comment on motive en rappelant que les questions, in fine, les questions de dissertation, ce sont des questions qui leur sont posées à eux avant tout. Et ça, je crois que c'est très important. Bien sûr qu'il faut apprendre une méthodologie, bien sûr qu'il faut avoir des références, avoir bien fait ses fiches, mais quand même, à un moment, il faut se rappeler, mais ces questions, elles me concernent, en fait.
Donc leur dire, c'est ton avis qui les intéresse.
Et elles me concernent. Et il y a quelqu'un qu'on entendait tout à l'heure qui disait qu'elle avait eu en disserte « Suis-je ce que mon passé a fait de moi ?» Mais quelle belle question.
C'est génial. Ouais.
Est-ce que tout ce qui nous précède, est-ce que notre enfance, est-ce que notre adolescence, c'est ce qui nous fonde? Bah, c'est quand même formidable. Donc, qu'elle aide à ramener sa fille, évidemment, et c'était l'objet de mes livres. Hein.
Elle peut aussi lui acheter les premiers. Voilà.
Elle peut aussi. Mais même ces deux-là, parce que Pénélope est une jeune femme tout à fait contemporaine, et puis il y a des histoires d'amour, il y a des. Et c'était rappeler que la philo, ça parle de nous, ça nous concerne. Et je crois que parfois, on détache les adolescents de ça, justement. On oublie de leur dire, mais attends, en fait, tout ce que tu vis au quotidien, c'est un sujet philo. De philo.
Exactement, on leur a fait ça. Eh bien, merci beaucoup, hein, Marie-Robert, d'avoir mis la philosophie à l'honneur en ce matin sur Europe 1 et surtout à portée de tous, ça fait du bien. On a bien vu, grâce à vous, que la philosophie, ça peut être aussi du concret de la vraie vie et surtout beaucoup de bienfaits pour nous. Je rappelle vos livres, hein, Le voyage de Pénélope et Les chemins du possible. C'est le dernier, hein, celui-ci, paru chez Flammarion. Merci encore.
Merci infiniment.
Merci Marie. Allez, maintenant, Julia, on va changer complètement de thématique. La transition va pas être évidente, hein, quoique, pourquoi veut-on se débarrasser de nos poils? Pourquoi ne pas garder cette toison? Ça pourrait presque être une question philosophique. On va voir ça, c'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
On va donc se débarrasser de nos poils ce matin. Enfin, je dis ça, mais en fait, il n'y a aucune obligation. Hein. Si vous les aimez, vos poils, gardez-les, bien sûr. Néanmoins, pour ceux et celles qui sont moyennement attachés, voire tout le contraire, nous avons invité ce matin le docteur Laurence Netter. Bonjour.
Bonjour Julia.
Alors je rappelle que vous êtes dermatologue à Paris. Alors docteur, d'abord en France, depuis quand fait-on de l'épilation définitive ?
Alors l'épilation définitive, cela veut dire une épilation au laser. Les premiers articles scientifiques ont été publiés dans les années 1998, donc c'est pas trop récent. Et les cabinets ont commencé à s'équiper, les dermatologues ont commencé à s'équiper dans les années 2000.
Mais ça a beaucoup évolué, j'imagine, en termes de technique depuis 2000.
Eh bien, pas tant que ça.
Ah bon ?
Pas tant que ça. Au point de vue efficacité, on n'a pas tellement évolué. Dès le départ, on a été très efficace. Ce qui a beaucoup évolué, c'est la rapidité des séance, c'est-à-dire la grosseur du tir, si vous voulez, la surface du tir et la fréquence des tirs. Donc avant, pour épiler des demi-jambes, on mettait une demi-heure, maintenant on met 10 minutes. Mais d'un point de vue efficacité, dès le départ, on a été en fait assez efficace.
Est-ce qu'il y a vraiment une grosse augmentation ces dernières années? Je crois que tout à l'heure, en rentrant dans le studio en off, vous nous disiez c'est ce qu'on fait le plus. Enfin, c'est vraiment le motif de consultation, entre guillemets, le plus fréquent quasiment.
Oui, c'est la première procédure de médecine esthétique, absolument, dans le monde entier. Dans le monde entier, les cabinets sont équipés, les cabinets esthétiques, les dermatologues qui s'intéressent à l'esthétique sont équipés de lasers.
Et c'est plutôt une demande féminine ou masculine?
Alors, bah, c'est un problème de mode. En règle générale, les poils sont pas très amenés chez les femmes. Ça change un petit peu. Mais alors que chez les hommes, il n'y a pas ce problème-là. Donc, évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de femmes qu'on épile que d'hommes. Mais la mode actuelle pousse les hommes à franchir les portes de nos cabinets.
Vous en voyez
et à
de
demander.
Temps en temps,
ouais. Oui, les poils, c'est pas très mode.
Et ils aiment pas quoi, les poils dans le dos, les hommes?
Les poils dans le dos, réajustement de la barbe. Même si la barbe est à la mode, on aime bien que les bords soient bien nets.
Et vous pouvez faire ça, vous? Délimiter une barbe?
Oui.
Partout où il y a des poils, elle peut agir quasiment.
Quasiment partout où il y a des poils. D'accord. Avec des succès qui sont un petit peu liés aux localisations. Ça marche moins bien dans certaines localisations, mais on peut épiler.
Lesquelles, par exemple, ça marche moins bien où?
Chez les femmes ou chez les hommes?
Les
partout.
Deux,
ouais. Alors, on épile chez une femme sans aucun problème, en 6 à 8 séances, on va dire, espacées à peu près sur un an et demi, 95% des poils à partir du moment, mais on en reparlera peut-être, où l'indication est bonne. Par contre, c'est plus compliqué au niveau du visage, c'est-à-dire que le poil est hormonodépendant et donc...
Il peut revenir avec la ménopause
oui,
ou des choses
comme ça.
On
peut même avoir des non-succès. Et puis, sur des zones comme... comme les lèvres, lèvres génitales, on n'a pas non plus
de gros succès.
Il y a une grosse demande et il faut prévenir au départ. En fait, la consultation au départ est indispensable. Il faut une consultation. On ne part pas comme ça dans
pour que l'indication soit bien posée.
Il faut que l'indication soit bien posée. Il m'arrive très fréquemment de dire « Ben non, vous avez une mauvaise indication, je ne vais pas vous épiler. » Il faut expliquer à la femme le nombre de séances. Oui.
Chez les hommes, je crois qu'il est conseillé de faire leur épilation définitive un peu plus tard que ce qu'ils souhaiteraient, parce qu'il faut attendre, parce que la pilosité n'est pas forcément définitive tout de suite.
Voilà,
plus âgée que les femmes, en tout cas, hein, c'est ça?
Oui, il faut attendre une certaine maturité pilaire
c'est
pour
quoi,
démarrer.
Quel âge la maturité?
C'est-à-dire que... chez les hommes, il y a encore une pilosité qui s'installe à 30 ans. Et donc, il ne faut pas le faire trop jeune. Mmh. Mais bon, c'est une notion, mais malgré tout, ça jouera sur quelques séances de plus si on démarre tôt. Mmh. Mais il n'y a pas d'âge limite pour commencer une épilation.
Mais il y a quand même un âge du poil. Hein. J'ai l'impression que, enfin, c'est ce qu'on se dit entre copines, qu'en vieillissant, les poils sont moins drus. On perd ses poils ?
Oui, on a moins de poils en vieillissant. Il y a plusieurs raisons à ça. Le poil, c'est un peu comme le cheveu. Il a été programmé pour pousser un certain nombre de fois. Puis au bout d'un certain nombre de cycles, il s'épuise un petit peu. Et puis les femmes qui ne font pas d'épilation laser, elles s'épilent soit à la cire, soit avec un petit appareil électrique. Et ça épuise un petit peu le poil. Le poil,
c'est l'avantage de vieillir. Hein, c'est ça.
Ah oui, il en faut quelques-uns, Mélanie. Il en faut quelques-uns.
Expliquez-nous quand même rapidement là, quel est le principe donc, de l'épilation définitive. Vous avez dit donc il y a des lasers. Et c'est quoi le laser ? Il va aller brûler le poil ?
Alors, un petit peu de physique. On va essayer de faire simple.
Après la philo, la physique. Ouais. Mais rendez-la sexy, la physique.
Je préfère la philo. Wow. Allez, c'est un challenge. On le prend. Le laser, c'est de la lumière. C'est de la lumière qui... tous les éléments de lumière vont dans le même sens. Et donc, ça confère à la lumière une puissance et une précision extrême. Et l'effet, ce qu'on appelle une photothermolyse, c'est-à-dire que la lumière va être convertie en chaleur au niveau d'une cible. Et pour l'épilation, la cible, c'est le pigment du poil, c'est la mélanine. Donc en fait, on cherche à faire chauffer la mélanine pour détruire le bulbe du poil.
C'est très simple.
Oui, c'est assez simple.
On a compris.
C'est sexy. Hein, donc la sexy, les sexy, la philo et sexy, la physique. Docteur Netter, on n'en a pas terminé avec vous. Dans un instant, on va passer à la pratique. Concrètement, que se passe-t-il lors des séances d'épilation définitive ? Combien en faut-il d'ailleurs de séances ? Et puis, est-ce que le laser fonctionne vraiment sur tous les types de poils, toutes les couleurs de peau ? On vous dira tout et c'est promis, ce sera sans douleur en plus sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins et à nos côtés pour parler d'épilation définitive, le docteur Laurence Netter est toujours en studio avec nous. Alors je rappelle que vous êtes dermatologue à Paris. Docteur, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a des gens chez qui on ne peut pas faire l'épilation définitive pour des raisons X ou Y ou alors pour des raisons médicales ?
Alors, tout repose sur la façon dont marche le mode d'action du laser. Pour bien épiler, il faut que la cible soit bien marron, puisque c'est ce qui va chauffer. Il faut que plus le contraste entre la peau et le poil est important, plus ça va marcher.
Moi, je suis une très mauvaise candidate. Hein. On m'a déjà refoulée deux fois.
Hein. Ouais.
Je suis très blanche et j'ai les poils roux. Alors.
Je suis désolée pour vous. Effectivement, les poils roux, ça ne marche pas. Parce que,
Mais au moins, on m'a dit de ne pas gaspiller mon argent pour rien. Hein.
Exactement.
Les poils roux ne marchent pas.
Non, les poils roux ne captent pas.
Absence de mélanine, en fait,
ne
aussi.
Ne captent pas. Ce n'est pas tout à fait l'absence. Ouais. C'est que vous n'avez pas la même mélanine. C'est
donc, la candidate ou le candidat idéal, il a la peau blanche et des poils...
Très blanche et le poil très épais. Et puis, c'est à peu près les seules choses qui sont importantes. Après, il y a quelques contre-indications rares du style vitiligo. Il ne faut pas épiler si...
S'il y a une énorme plaque d'eczéma, on ne fait pas non plus, j'imagine.
Et encore, il ne va rien se passer, si vous voulez, à partir du moment où on ne fait chauffer que la mélanine du poil. On peut même épiler les peaux noires. On a une longueur d'onde aujourd'hui qui permet d'épiler les Africains ou les gens des Antilles sans aucun problème.
Oui, parce que c'est ça, il n'y a pas un laser, hein. Il y a quand même plusieurs sortes de lasers.
Alors, un laser se définit par sa longueur d'onde. Donc, le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le laser alexandrite, qu'on utilise pour ce qu'on appelle les phototypes clairs, c'est-à-dire les personnes qui ont la peau claire. Mais on a une autre longueur d'onde qui est le YAG et qui est le laser qu'on utilise quand on a un phototype foncé. Mmh. Et on n'a aucun problème à épiler une peau noire aujourd'hui. Mmh. Par contre, le duvet, blanc... les poils roux, ça marche pas.
Le duvet, ça marche pas. Même si on choisit un laser, je sais pas, avec une bonne...
bonne longueur d'onde.
Voilà,
il faut qu'il y ait suffisamment de cible, puisque c'est la cible qui chauffe et qui va transmettre la chaleur au bulbe. Si le duvet est trop fin, trop blond, on n'y arrivera pas.
Alors, comment on fait la différence entre un duvet et un bon poil ?
C'est l'œil du médecin.
C'est l'œil du médecin, nous, on ne peut pas le savoir.
Je peux vous dire, je pense que vous avez des poils, Julia.
Moi, j'ai des poils.
Bah, je pense.
Je regarde de quoi.
Il faut une consultation, on regarde, on en discute.
Mais le duvet, ce n'est pas partout, de toute façon.
Et puis, ce n'est pas très gênant, un petit duvet sur les bras.
Oh, c'est un petit duvet mignon.
C'est un petit duvet. En plus, les bras, c'est pas la meilleure.
On fait pas les meilleurs. D'accord.
Si, si, bien entendu qu'on fait les bras. Mais souvent, même après plusieurs séances, c'est une des zones où il peut rester un petit duvet.
Et donc, des femmes qui auraient du duvet, par exemple, au niveau du menton, hein, j'en sais rien. Là, on peut pas faire grand chose, alors.
Ça, non, c'est pas moi. C'est plus compliqué le visage. Dans la très très grande majorité des cas, on y arrive sans aucun problème.
Mais vaut mieux avoir trois quatre moustaches
poils,
alors
c'est carrément un sujet un petit peu plus long. S'il y a trois quatre poils, mieux vaut les faire à l'électricité de temps en temps au niveau du visage, et rien qu'au niveau du visage, on peut aggraver le problème, d'où la nécessité de la consultation chez le dermatologue. Et le duvet part pas très très bien. Donc on a le challenge entre épilation laser et épilation électrique.
En tout cas, il y a toujours des solutions apparemment.
Toujours des solutions.
Alors, lors de la première consultation, une patiente arrive dans votre cabinet pour les demi-jambes. Hein,
Julia V, par exemple.
Oui, par exemple. Oui, parce que je ne l'ai pas fait. Alors, vous allez regarder quoi ?
Alors d'abord, on va faire connaissance, je vais vous examiner. C'est pas très...
Elle
ce que vous êtes en train de faire n'est pas
venir
très...
avec des poils, on est d'accord. Non, mais il n'y a pas de
vous
poils.
Vous êtes filmée ?
Oui. Oui.
D'accord. Bon, bah écoutez, là, vous êtes un petit peu loin. Donc, on regarde. La couleur de la peau.
Elle
on vous explique clair, pas de problème. On vous explique qu'il ne faut pas venir bronzer, il ne faut pas avoir mis d'auto-bronzant, il ne faut pas prendre de vitamines qui contiennent du bêta-carotène, parce que tout ça, ça va absorber... Le laser à la place du poil.
On est d'accord qu'on vient vous voir avec des poils, on les laisse pousser.
Ah ben il m'en faut au moins quelques-uns.
Pour
j'ai pas besoin
idée,
d'avoir, d'avoir la touffe, mais juste avoir quelques poils pour juger de leur,
de leur
couleur
qualité,
et la, voilà. D'accord. Éviter de vous épiler la veille.
Alors, cette première séance pour Julia Vignali.
Cette première consultation.
Consultation. Alors, on commence pas par une séance.
Jamais. Bon. Donc, consultation.
Ensuite, tout est OK, vous avez vérifié qu'il n'y a pas de problème, elle est d'accord, elle a validé, j'imagine, un devis, tout ça. Enfin bon, voilà, elle vient pour sa première séance, pour ses demi-jambes, Julia. Je crois qu'il faut se raser avant, hein, et pas s'épiler surtout. Hein.
Non, là, il ne faut pas s'épiler, puisque la cible, c'est le poil. Par contre, il faut se raser, parce qu'il faut que la chaleur soit produite dans les couches profondes, et non pas en superficie. Si vous arrivez avec un poil qui est extérieur, on va chauffer la partie externe du poil, on va brûler la peau, il ne va pas y avoir de chaleur en profondeur.
Donc il faut être rasé de près. De près, hein ? Oui.
Rasé normalement.
On se rase.
Alors moi, ma question, si je venais dans un cabinet pour me faire épiler les demi-jambes, ce serait est-ce que ça fait mal ?
Alors, la douleur, d'abord, elle est très fonction de votre perception personnelle, mais entre autres, elle est proportionnelle à l'épaisseur du poil. Plus le poil est épais, plus il y a de chaleur.
Ça risque de vous faire mal, Julien.
Plus c'est douloureux.
J'ai un poil épais sur le menton. Non, c'est pas vrai. On m'avait dit qu'on comparait cette douleur à un élastique qu'on nous plaquerait sur la jambe.
Un petit peu. Quoi, ouais. Enfin, dans la très, très, très grande majorité des cas, les patientes le supportent. Il n'y a absolument aucun problème. Moi, je fais mettre de la crème anesthésiante.
Ah, on a le droit.
Absolument. Sur certaines zones, comme le maillot. Le maillot, ça fait vraiment mal. Mmh. Et puis, les hommes qui ont des poils très épais, les premières séances, de temps
ça
en temps,
très douloureux,
c'est mal supporté. On fait mettre de la crème anesthésiante. On fait un petit test, de toute façon, cette première consultation, j'explique et je fais un test. Comme ça, le patient
Il sait s'il doit mettre de la crème anesthésiante ou pas.
Il repart confiant, même s'il ne vient pas deux mois après, quand le poil va repousser, il va voir l'amélioration, il va voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, l'ordonnance.
Vous avez dit que c'était assez rapide aujourd'hui, les séances, pour des demi-jambes, environ une dizaine de minutes, enfin que 15
10 minutes.
10 minutes,
c'est un petit peu court, mais disons 20 minutes. J'ai dit 10 minutes.
Oui, vous avez dit 10 minutes.
Alors, on va traîner un petit peu avec les houilles.
Avec Julia,
on s'arrête un petit peu.
Comptez moins 20.
Non, 20 minutes.
Par demi-jambe ou en tout ?
Non, 20 minutes pour les deux. Ah, 10 minutes par jambe.
C'est pour ça que vous aviez dit tout à l'heure. Et après la séance, est-ce qu'il y a des soins à faire, des crèmes, je sais pas, à mettre sur la zone traitée ?
Non.
On peut pas se mettre au soleil après ou comment ça se passe ?
Le problème du soleil, on ne peut pas venir bronzer puisque le laser ne va pas faire la différence entre le bronzage et le poil et on va brûler la peau. Par contre, dès que la rougeur a disparu, et dans le pire des cas, la rougeur peut rester 24 heures, là, on peut aller au soleil.
On peut aller au soleil au bout de 24 heures après la séance. Parce que moi, j'ai entendu dire 3 semaines, 1 mois.
Non, c'est faux.
C'est faux,
c'est complètement
mieux.
Faux. D'accord. C'est complètement faux. On ne peut pas faire de laser sur une peau bronzée, mais dès que la peau est normale, vous pouvez aller au soleil.
Bon, et alors, combien de séances il faudra pour se débarrasser des poils sur les demi-jambes,
alors,
sur cette zone-là ?
En général, on dit qu'avec un bon laser, ça c'est très important. La qualité du matériel, c'est quelque chose de très très important. Il faut 6 à 8 séances espacées sur 1 an et demi à peu près.
Il faut les espacer de combien de temps ?
Alors, pour enlever, moi je dis toujours 95% des poils. Ah. Parce qu'il peut rester quelques poils qui sont trop fins et qui n'ont pas assez de mélanine pour partir. Alors, tous les combien de temps on fait la séance ? Ça, c'est très très important. On fait la séance au moment où le poil repousse. Parce que c'est au moment où le poil repousse qu'il est le plus chargé en mélanine et que le poil est en contact avec le bulbe.
Mais ça repousse en combien de temps ?
Sur le corps, tous les 2 mois. Sur le visage, le cycle pilaire est différent, c'est tous les mois.
D'accord, ok. Bon, on voit que ça peut prendre un an et demi.
Et un petit peu plus de séances sur le visage. Ah, d'accord. 10-12 séances.
Et qu'est-ce qu'on doit penser de tout ce qui est lumière pulsée pour faire de l'épilation définitive proposée, notamment chez les esthéticiennes ?
Alors, la lumière pulsée, techniquement, on va pas rentrer trop dans la physique, mais c'est une lumière qui n'est pas ce qu'on appelle cohérente. C'est-à-dire que les photons, ils vont dans tous les sens. Et donc, c'est un petit peu plus risqué pour la peau. Très curieusement, c'est la méthode qu'utilisent les esthéticiennes, puisque les esthéticiennes n'ont pas le droit d'utiliser un laser. Donc, quand vous voyez épilation laser chez l'esthéticienne, c'est faux. C'est de la lumière pulsée. Maintenant, si on a une bonne lumière pulsée, une lumière médicale, elle épile correctement. Et le matériel que l'on trouve chez les esthéticiennes est beaucoup moins puissant que nos IPL médicaux.
Docteur Netter, pour terminer très rapidement, il faut compter combien en moyenne pour une épilation définitive ?
Combien de séances ?
Combien d'argent ? Non, le coût.
Alors, le coût, il est librement fixé par le dermatologue.
C'est une centaine d'euros la séance, 150 euros la séance.
Non, ça ne veut rien dire parce que ça dépend de la zone.
Ah, pour les demi-jambes.
Par contre, ce que je vais vous donner une notion que je donne en règle générale à mes patientes, c'est que ça revient à peu près à 2 ans, 2 ans et demi d'épilation
chez l'esthéticienne
à la cire, à raison d'une séance tous les mois, puisque à la cire ça repousse tous les mois.
Bien sûr.
Et ça c'est définitif. Hein. On dit bien c'est définitif à 95% pour 95% des poils. Donc pécuniairement parlant, c'est quand même très intéressant.
Merci beaucoup, docteur Netter.
Merci Mélanie,
de m'avoir accompagnée ce matin. Grâce à vous, on sait tout ce qu'il y a besoin de savoir sur l'épilation définitive, ses bonnes indications et même ses risques. Merci.
Oui, merci docteur. À présent, Mélanie, on va passer à la séquence tendance de l'émission. Il y aura d'abord de la gastronomie comme chaque jour avec Margot Grossman qui va nous expliquer le porridge qui est hyper tendance. Et c'est pas juste une bouillie fadasse, hein. Ça peut être très moderne et très sympa à déguster, vous verrez. Ensuite, notre coach Jean-Marc Delorme nous propose ce matin de nous initier à la marche nordique, un sport qui a de nombreux bienfaits. Et enfin, on va terminer la danse avec les conseils beauté du docteur Aurène Marco. Et ce midi, il va nous dire si la chirurgie esthétique, c'est toujours un sujet tabou, un secret qu'on ne révèle qu'à ses très proches quand on y a eu recours, ou est-ce que c'est quelque chose dont on peut parler à ses moins proche. Bref, les mentalités évoluent, on en parle sur Europe 1.
Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on scrute tous les aspects de notre vie quotidienne avec un seul objectif, la rendre encore plus belle. Alors justement, qu'est-ce qui rend la vie particulièrement belle et agréable ? Eh bien, c'est de profiter
Mais
de la bonne chair
évidemment.
Et manger, hein. Mélanie, vous n'êtes pas la dernière, vous non plus. en tout cas, c'est vrai que tout ça est important. Alors justement, la séquence tendance débute toujours par la chronique gastronomie et c'est vous qui êtes aux commandes aujourd'hui, Margot Grossman. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on va manger de bon ?
On va manger du porridge.
Ah, c'est bien le porridge, mais c'est pas une bouillie un peu...
Ah bah justement, on va en parler. Je vais tout raconter sur le porridge.
Je suis sur la bouillie, ouais. Ensuite, ce sera à notre coach sportif de prendre les manettes comme tous les mardis. On va tester la marche nordique, c'est bien ça Jean-Marc Delorme ?
Bah vu le climat d'aujourd'hui, je pouvais on pas proposer autre chose.
On est bien là, niveau météo sportif, on est nickel.
C'est le moment de s'y mettre. Et enfin, on va terminer la partie tendance du jour avec notre docteur beauty, le docteur Aurène Marco. Bonjour Aurène. Alors vous allez nous parler de quoi aujourd'hui ?
Bah en fait, on dit que la chirurgie esthétique se démocratise, on en parle partout sur les réseaux sociaux, on va voir si c'est si bien de le dire, est-ce que ça doit rester secret, est-ce que vous êtes secret.
Un peu de philosophie esthétique finalement.
Ouais,
c'est ça. Hein.
Et moi ça m'intéresse drôlement, merci docteur Aurène Marco.
On se demande pourquoi.
Ok, je vais peut-être faire un coming out, on verra. Bon en tout cas, merci de rentrer en piste d'ici quelques minutes, on passe à table dans Bienfait pour vous.
Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
Il est l'heure de déguster de bonnes choses, comme tous les jours, dans mon bienfait pour vous. Alors, pour nous régaler, c'est Margot Grossman qui a enfilé le tablier aujourd'hui. Margot, on vous écoute.
Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un Écossais, même si on le prend souvent pour un Anglais. Bon, il est pas tout jeune, mais je le connais plutôt bien, puisque je le mange tous les matins depuis des années et je ne m'en lasse jamais. C'est donc le porridge. Bon, avec un nom pareil, c'était pas gagné. Hein, porridge, ça veut dire bouillie en anglais, donc vraiment pas sexy. En plus, une bouillie blanchâtre, pas très ragoûtante d'aspect, mais pourtant excellente et bourrée de bienfaits. Il détrône même l'açaï bowl et l'avocat au toast sur les tables des petits déjeuners sains et branchés.
Ah oui, alors pourtant c'est vieux comme le monde, hein, le porridge.
C'est l'une des préparations les plus anciennes de l'humanité. Son histoire remonte à 12 000 ans quand même, donc vraiment pas tout jeune, le porridge. On en mange un peu dans le monde entier. Hein. C'est devenu un repas traditionnel dans les pays slaves et les pays anglo-saxons. En Écosse, on a même un championnat du monde de porridge chaque année, qui réunit les cuisiniers du monde entier. L'année prochaine, je me présente en kilt en jouant de la cornemuse, hein, histoire de pouvoir tout donner. Et récemment, il s'est fait une place d'honneur dans le monde de la healthy food. Il a été pimpé, il a même changé de nom. On l'appelle hot meal comme les Américains maintenant. Mm-hmm. Et on l'agrémente de tout un tas d'ornements pour le rendre plus sexy. Des petites graines de chia, des amandes, des super aliments, des fruits. Même Kate Moss, Demi Moore et Bill Gates s'y sont mis.
Mais il n'a pas toujours été si populaire. Hein.
Alors vraiment pas, en fait. Rien ne prédisait qu'il soit si populaire et surtout si bon. Il a longtemps eu très mauvaise réputation. Il était d'ailleurs servi dans les prisons. Et comme punition aux enfants, dans les maisons de correction. D'ailleurs, doing porridge en anglais, ça veut dire faire de la prison.
Ah ouais.
Alors, au départ, l'avoine, en fait, donc la base du porridge, c'était soit la nourriture du cheval en Angleterre, soit l'aliment du pauvre en Écosse. Ouais. D'ailleurs,
c'est
ça amusait bien.
Hein.
Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, ça amusait bien les Écossais qui comprenaient pas pourquoi les Anglais ne réservaient l'avoine qu'à leurs chevaux. Du coup, ils aimaient bien les charrier un peu en leur disant que c'était certainement pour ça que l'Écosse avait des hommes aussi géniaux et l'Angleterre d'aussi bons chevaux. Et depuis, les Anglais se font aussi un porridge tous les matins.
Alors, comment on prépare un bon porridge, un porridge classique, on va dire. J'en ai déjà dans la bouche.
Alors, c'est bon.
Le vôtre, il est sexy, il est très, très bon.
Sexy, hein, on en parlait. Hein. On l'a sexisé.
Les garçons aussi, ils ont craqué, ils ont déjà commencé à manger.
Bon, hyper bon.
Du coup, c'est une bouillie de céréales, et plus traditionnellement d'avoine, qui peut se faire avec des flocons coupés ou roulés, des petits ou des gros, en fait. Ça change légèrement la recette. Alors, il y a même des variations au four et sans cuisson, mais la recette la plus traditionnelle, donc écossaise, se fait à la casserole. On mélange juste des flocons d'avoine, qu'on fait chauffer avec un peu de sucre dans de l'eau ou du lait, jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Alors pour doser les portions, moi j'utilise souvent un verre Duralex, hein, celui où on gardait notre âge dedans quand on était petit. Enfin, en tout cas, ce qui est génial avec le porridge, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. La base est déclinable à l'infini, en sucré, en salé. On peut s'amuser et y ajouter un petit peu ce qu'on veut en fonction des saisons et des envies. Pour varier, on peut même changer les flocons d'avoine par du millet, du quinoa, du sarrasin, du riz. Mm-hmm. Alors par contre, quand on prépare un porridge, il y a une petite règle à respecter. Attention. Alors il faut absolument le remuer dans le sens des aiguilles d'une montre et avec la main droite, ça porte bonheur.
Ah
si, si, si. Par contre, si vous le mélangez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et avec la main gauche, là c'est malheur assuré. Bon, moi je suis gauchère, donc j'ai toujours un petit peu galéré avec mon porridge.
Et c'est bon pour la santé ou pas le porridge?
C'est excellent. Hein. En fait, en 2015, des chercheurs d'Harvard ont même publié une étude qui prouve que consommer un bol par jour améliore l'espérance de vie et la santé. Donc, moi, ça fait à peu près 10 ans que je m'y suis mise, donc j'espère que ça va marcher. C'est bien que vous êtes silencieux aujourd'hui.
C'est très bon.
Alors, en fait, les flocons d'avoine sont bourrés d'antioxydants, de vitamines, de fer, de magnésium, de zinc, de phosphore, avec un indice glycémique très bas. Ils contiennent aussi des fibres qui nous rassasient l'estomac pour tenir sans problème jusqu'au prochain repas. L'avoine va aussi aider à la perte de poids, il améliore le transit, lutte contre la cellulite, diminue le taux de cholestérol et donc le risque de maladies cardiovasculaires. C'est aussi un allié belle peau et il est excellent contre l'anxiété.
Et il y a quelqu'un qui va aimer ça parce que c'est l'allié du sportif aussi. Écoutez ça, Jean-Marc.
Exact. Donc pour tous les sportifs, le porridge, c'est vraiment l'ami du petit déjeuner, hein, même si ça rime pas du tout avec ricoré. C'est une excellente source de protéines, de glucides et de bons acides gras qui sont essentiels à son alimentation.
Aurène, vous qui êtes en salle de sport tout le temps, c'est pour vous aussi.
Je suis
hein.
très content, là, j'adore. Mais c'est en récupération ou bien avant de faire son sport?
Les deux, mais peut-être plutôt après.
D'accord.
Ah ouais, mince.
Ouais,
on a pas dit la même chose.
Ce qu'il y a bien avec l'avoine, c'est que ça diffuse lentement la glycémie, donc c'est vachement bien pour le sportif.
C'est top pour le sportif. En plus, il peut sans problème être adopté par les végétariens et les végétaliens, en fonction du lait qu'on met. Et il contient quasiment pas de gluten. D'ailleurs, du coup, petite recette, petit porridge spécial sportif en collaboration avec la marque OTML, donc Diane Fima, qui est un peu la queen du porridge à Paris, selon moi. Mm-hmm. Une version choco-noisette.
C'est celle qu'on est en train de manger, là, on est d'accord.
Ouais, on a fait une petite collab sur cette recette.
Combien
spéciale
de calories
sportive. 300.
C'est tout,
c'est pas vrai.
C'est comme les deux, petits trucs de graines de chien la semaine dernière, donc ça va.
Alors racontez-nous comment on le fait à la maison.
Donc seulement 300 calories. Alors vous pouvez trouver Diane sur Instagram, hein, hotmeal.paris. Alors, pour la base de ce porridge, vous avez besoin d'une demi-banane, donc le fruit du sportif par excellence, 40 g de flocons d'avoine, 200 ml de lait de noisette, une cuillère à café de sirop d'agave, qui a un indice glycémique beaucoup plus bas que le sucre classique. Et pour les toppings, 10 g de chocolat noir et une cuillère à café d'éclat de noisette. Alors la recette, c'est très très simple, vous allez voir. On commence par écraser notre banane à la fourchette. Ensuite, dans une casserole, on va verser les flocons d'avoine, le sirop d'agave, la banane écrasée et le lait de noisette. On fait chauffer à feu doux pendant 5 minutes en remuant régulièrement dans le sens des aiguilles d'une montre, bien sûr, et de la main droite, surtout. On verse tout ça dans un bol, on nappe avec les éclats de noisette, le chocolat, et voilà.
C'est délicieux. Merci beaucoup, Margot.
C'est vous qui parlez, hein, parce que moi, j'ai la bouche pleine.
Mais pareil, toutes ces recettes saines et gourmandes pour les sportifs sur votre blog, évidemment, et l'Instagram de Margot, amasauce.com et Margot Amasauce. Merci au TML, hein, donc,
Haute-Mille,
comment on dit
Haute-Mille, bah, comme le porridge,
voilà,
en fait.
Super. Elle est tout ça, c'est sur Instagram, et donc, elle ouvre en janvier 2022. Voilà. Merci beaucoup, Margot. Dans un instant, plus de tendance avec nos deux hommes, hein, ici en studio. Restez avec nous parce que notre coach sportif Jean-Marc Delorme va nous expliquer pourquoi, si c'est pas déjà fait, il faut qu'on se mette tous à la marche nordique. On va transpirer un peu, je pense. Et puis avec le docteur Aurène Marco, on va réfléchir à une question importante, la médecine et la chirurgie esthétique. Quand on en fait, cela doit-il rester secret? Les mentalités ont-elles changé de ce côté-là ces dernières années? Il nous dira ce qu'il en pense.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes dans notre séquence tendance qui se poursuit. Avec Julia, nous sommes toujours entourés par la crème de la crème des chroniqueurs radio. On a vu juste avant qu'en cuisine, en tout cas, le porridge, c'est très tendance et c'est délicieux quand on le fait bien. Et ce sera forcément bien puisqu'on a eu les super conseils de Margot Grossman. Alors maintenant, on va passer à la tendance sportive du jour, choisie par notre coach Jean-Marc Delorme. Jean-Marc, on part à la découverte de la marche nordique avec vous. C'est bien ça?
C'est exactement ça. C'est un sport qui nous vient de la Finlande en 1920. Quand les skieurs, l'hiver, ne pouvaient pas, il n'y avait pas de neige, ils voulaient s'entraîner, ils commençaient à marcher avec les bâtons. Alors ça nous est venu et ça a explosé dans les années 2000. Et donc, qu'est-ce qu'est la marche nordique? C'est une marche avec des bâtons munis de gantelets. Vous voyez, c'est une sorte de lanière qui entoure la main.
Ah, j'ai jamais fait attention à ça.
Ouais, ah, et qui permet de se clipser sur le bâton. Du coup, pour la marche nordique, on en a besoin parce qu'il y a un moment donné, on libère le bâton. Je vais vous expliquer ça quand
Ah, c'est pour ça qu'on a le petit truc qui s'attache.
Absolument.
D'accord. Mais c'est quoi la différence entre... Enfin, bah, pas
Julia,
la différence.
Julia, vous avez du chocolat partout.
Ah oui, j'ai du chocolat. J'ai du porridge, j'ai encore sur moi. Mais c'est quoi les avantages de la marche nordique par rapport à la course, par exemple?
Alors, par rapport à la course, la différence entre la marche et la course, c'est que la course, il y a un moment donné, il y a un instant aérien. D'accord, où les deux pieds sont en l'air, alors que la marche, il y a toujours un appui au sol. J'allais faire tomber le porridge. Et la marche, donc, il y a un déroulé, c'est-à-dire qu'on attaque talon, on déroule le pied et on pousse avec la pointe. D'accord. Et en course à pied, en théorie, beaucoup ne le font pas, mais on doit atterrir à minima sur le pied à plat et puis
c'est moins traumatisant
que de fouler. Alors, c'est moins traumatisant si on n'a pas la technique. Si on est bon coureur et qu'on a la technique, c'est pas moins traumatisant. En revanche, c'est quelque chose qu'on peut faire très longtemps, hein, la marche nordique. Alors, tout d'abord, parce qu'on peut faire, effectivement, comme je suis en train de vous le dire, n'importe quel âge. C'est aussi un moyen de se remettre au sport après blessure. Hein, c'est assez doux. On peut le faire tout le temps. Et puis, côté forme, on pourrait penser que c'est quelque chose qui est relativement cool. Ben, on s'aperçoit qu'en gros, c'est pratiquement la même dépense calorique que la course, on est entre 400
et 1000 mètres.
Ça fait tout travailler. C'est-à-dire qu'avec les bâtons, on a un travail évidemment des membres inférieurs, hein, donc des cuisses, des fessiers, le bas des abdos qui travaille beaucoup parce qu'on est obligé vraiment de se tenir droit, et puis les bras, les pectoraux. Donc c'est
même
vraiment...
les abdos.
Et même, ah oui, les abdos.
Un sport très complet d'endurance.
Ouais, ouais.
D'accord. Est-ce que c'est justement une solution quand on a besoin, pour des raisons de santé, notamment de perdre un peu de poids?
Bah, carrément. Ouais. Carrément. Ça s'inscrit directement dans les sports d'endurance. Hein. Alors, comme je vous disais, entre 400 et 600 calories par heure. Donc, c'est quand même quelque chose de bien et qui permet de fitter. Donc, c'est vraiment un bon sport. Et puis, on a pas mal d'exercices qu'on peut faire avec. Il y a par exemple un exercice qui est sympa. C'est le relais Kenyon qu'on fait en course à pied, c'est-à-dire qu'on va en groupe, et puis à chaque fois, le dernier prend passe devant et traîne les autres, et donc les autres doivent
se... pas mal. Mais en dépense
énergétique... On s'amuserait bien, hein, comme ça, je
vois. Mais on n'est que deux. On peut faire des marches nordiques à deux ou pas, Jean-Marc?
Bien sûr.
On peut faire un relais à deux?
Mais on peut faire un relais à deux.
Ah bah super.
À partir de deux, c'est...
Il y a des associations de marches
nordiques tout seul.
Il y a des associations.
Il y a des associations, alors c'est géré par la Fédération d'Aclé. Voilà.
Donc là, on peut trouver un groupe, Julia, pour aller se...
On peut trouver un groupe avec des gens qui sont diplômés pour enseigner ça.
Et motivés. Et quel équipement faut avoir?
Alors, l'équipement, il est relativement simple. Alors maintenant, il y a des bâtons spécifiques de marche nordique qui sont en carbone, munis d'un gantelet. Comment choisir ces bâtons? Tout simplement, la base, on se met debout, d'accord, les bras le long du corps. On plie un bras de manière à avoir l'avant-bras perpendiculaire au biceps. Et puis, la poignée doit arriver, se caler dans la main.
C'est pour ça qu'on a la bonne taille.
Là, on a à peu près la bonne taille. Okay,
des conseils techniques ensuite
Et juste au niveau des chaussures, je termine avec ça. Il faut évidemment des chaussures qui soient relativement souples pour bien pouvoir faire ce déroulé de pied.
Des chaussures de running,
de trail. On peut y aller, des baskets, c'est suffisant. Puis avec un grip quand même pour ne pas glisser.
Et parlez-nous du planté de bâton.
Alors, le planté de bâton, Jean-Claude.
Dites-nous tout.
Avec un petit verre de vin chaud.
Alors, c'est ça. Voilà, la technique pour commencer, elle est assez simple. Donc, l'idée, c'est de engager le bras opposé à la jambe en action, d'accord ? Si je mets la jambe en avant, la jambe gauche en avant, j'engage le bras droit. Et je vais d'abord planter le bâton vers l'arrière à 45 degrés, à peu près, d'accord ? Et puis, dès que je passe la hanche, je libère le bâton, c'est-à-dire que je lâche le bâton, et je suis juste tenu par la sangle, et je pousse avec le bras. D'accord. Donc ça, on peut bien coordonner. Il faut être assez coordonné pour ça. Et puis après, il y a d'autres techniques. On peut, quand ça monte un petit peu, pousser simultanément avec les deux bras. Voilà.
Donc, et ça se pratique où, ça?
Alors, ça se pratique dans les bois, dans les forêts.
Dans les locaux, là, d'Europe 1, si vous voulez.
Mais aussi, alors évidemment, quand vous êtes sur le bitume, il y a même des petits embouts caoutchouc qui se mettent au bout des bâtons.
Pas mal.
Donc, ça évite de faire clic-clic-clic. C'est pas
super agréable. Mais j'ai vu ça, moi, à Paris, je crois.
Et puis, ça limite les vibrations. Il y en a qui le font à Paris, ça peut se faire vraiment partout. Et puis après, dès que vous êtes à l'aise, vous pouvez passer en montagne.
Ça doit être sympa, ça.
Alors là, on va être plus sur du fast hiking, ce genre de choses, mais...
ça sera quand on sera aguerri, ça.
Ouais. Exactement.
Dans quelques mois, Julien.
Exactement.
Dans quelques mois. Merci Jean-Marc.
Avec plaisir.
Pour cette découverte. On aurait presque l'impression que c'est facile quand on vous écoute. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer ce sport qui nous offre tant de bienfaits pour le corps. Et bien maintenant, je me tourne vers un autre homme qui ne nous offre que des bienfaits, lui aussi.
J'essaye.
À chaque fois qu'il intervient dans cette émission, c'est vous, docteur Aurène Marco. Et on va se questionner un peu aujourd'hui, parce que la chirurgie esthétique se démocratise.
Exactement.
Et c'est donc la tendance, tout le monde en parle, mais est-ce qu'elle doit rester secrète? Est-ce qu'on doit tout dire de ce qu'on fait?
Eh bien, c'est vrai que la chirurgie esthétique se démocratise, on voit partout, les réseaux sociaux, c'est inondé de posts, de stories, soit de comptes de chirurgiens, comme le mien, soit d'influenceuses ou d'influenceurs qui postent leurs petits soins esthétiques. Mais tout ce microcosme qui l'avoue, est-ce que dans la sphère privée, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours intéressant de le dire? Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il faut garder son petit jardin secret? Je me tourne vers Jean-Marc. Parce que Jean-Marc...
Ah oui, il est tout refait, en fait.
Je suis complètement refait, bien sûr.
Le pauvre, il s'est fait alpaguer comme ça, il n'a rien demandé.
Est-ce que toi, tu l'as dit à tout le monde?
Non,
je plaisante. En tout cas, autour de cette table, je ne sais pas qui fait quoi ou si quelqu'un a déjà fait quelque chose, mais est-ce que
qu'est-ce
vous
que vous
le diriez?
Qu'est-ce que vous avez fait quelque chose? Un petit ça quelque dépend chose, de quoi on parle.
Ah oui, alors moi, je le dis, je me suis fait recoller les oreilles quand j'étais tout petit.
Moi aussi, Jean-Marc.
Parce qu'on aurait bien
dit. Ah ben voilà,
vécu, c'était libéré.
Ma première chirurgie esthétique aussi. La parole se libère enfin.
Point.
Donc c'est vrai qu'il y a des chirurgies, en fait, il y a des chirurgies où quand c'est un peu une connotation un peu réparatrice, on a tendance à en parler ouvertement.
Les oreilles de Jumbo, c'est pas tabou.
Voilà,
en général,
je l'ai fait
recouvrir une cicatrice, alors ça, j'ai pas honte
de
dire.
C'est pas de la chirurgie esthétique, ça va mieux.
Bah, un petit peu réparatrice, petite joueuse.
Non, c'est rien du tout.
Petite joueuse. Non, effectivement, en fait, l'idée, c'est de savoir si, quand on fait un acte, alors il y a l'opération...
Margot, elle dit rien, moi je me méfie quand même.
Non, j'ai jamais rien fait, mais j'ai en tête, j'aimerais bien refaire un truc, mais je n'ai jamais rien fait.
Et il y a l'acte simple de petite médecine esthétique. Alors, c'est vrai que dans la sphère privée, on a soit avec les copains, les copines, le cercle d'amis. Est-ce qu'on leur avoue? Est-ce qu'on leur dit tout? Moi, par exemple, au travail, en tout cas en consultation, je vois des nanas qui viennent me voir, elles me racontent les ragots de leur copine. Oui, elle a été voir celui-là, il a complètement foiré, etc. Je dis, mais vous ne donnez pas votre numéro, le vôtre? Ben non, je donne pas, chacun sa merde.
Oh, c'est pas gentil.
C'est pas très gentil.
Moi, j'ai filé votre numéro à tout le monde.
Et en plus, c'est vrai.
Mais en plus, c'est vrai. Mais alors, au travail, ça veut dire qu'il ne faut pas en parler ?
Bah, au travail, souvent, on n'a pas trop envie d'en parler. On n'a pas envie de. On préfère garder, c'est vrai, plutôt que de dépenser ses RTT, on préfère garder pour les vacances. Et comment revenir au travail avec des bleus, des œdèmes, etc.
Bah,
donc, bah, du coup, il y a plein de petites astuces. Donc, même moi-même, je donne des fois des petits tips aux patients en leur disant bon, bah là, on a fait ça. Vous pouvez dire que vous avez fait, par exemple,
un cours de boxe
ce week-end.
C'était ça.
Et c'est pour ça que vous avez des coca.
Oren, il fait la petite piqûre et en plus, il donne le conseil pour faire le mytho derrière.
C'est vrai.
Donc, pour les paupières supérieures, effectivement, je leur conseille le cours de boxe. D'accord. Pour le nez cassé avec le plâtre, je leur dis qu'il faut dire bah, soit une chute à vélo, soit une chute et on s'est cassé le nez.
C'est génial. Mal.
Voilà. Quand on fait des injections d'acide hyaluronique sur le visage et que le lendemain, on a le visage qui gonfle ou des petits bleus, je dis que c'est une petite allergie, un kiwi, un fruit, ça, etc.
Moi, j'ai beaucoup d'allergies au kiwi.
Et puis, le lifting, c'est très simple.
Ah, qu'est-ce qu'on dit pour le lifting, alors ?
Le lifting, comme on porte un petit masque juste après l'intervention pendant une petite semaine, un petit truc, on dit qu'on a un problème à la mâchoire, c'est le dentiste qui l'a posé.
Et les gens, bien sûr,
on ne parle jamais de vous, en fait. Hein. La question qui tue, est-ce qu'on doit le dire dans son couple ? Parce que c'est difficile de dire qu'on a mangé un kiwi pendant des jours et des jours.
Alors qu'on est tombé à vélo alors qu'on est en voiture.
En général, il est au courant.
C'est vrai que c'est très intéressant de savoir. Alors, il y a des femmes qui le disent pas du tout. Alors, pour les petits actes de médecine esthétique.
Ouais, moi, j'ai fait un peeling une fois, je lui ai pas dit,
voilà,
mais on s'en fout, non?
Petit jardin secret, on s'en fout. Mmh. C'est sympa de le garder pour soi. Après, pour une chirurgie, c'est plus dur. Mmh. Mais j'ai quand même eu une nana qui a, son mari est parti en voyage d'affaires. Elle a fait un lifting le jour où il est parti. Et entre 10 jours après, il la trouve sublime. Elle lui a dit, j'ai fait de l'acupuncture. C'est ça les traces que tu vois sur les côtés.
Ah, c'est pas mal le coup de l'acupuncture.
L'acupuncture, c'est magnifique.
Ah, mais c'est génial. Mais les conjoints, ils ont pas peur un peu aussi? Ils sont pas un peu jaloux quand on commence à
tous jaloux. Je trouve, c'est vrai que moi j'ai tout le temps cette
phrase. Mais c'est
parce
qu'ils nous aiment comme on est. Alors,
ils ont peur qu'on soit trop beau.
Ça, c'est ce qu'ils disent. Je t'aime comme tu es.
Moi, je pense ne touche à rien, tu es parfaite.
Moi,
j'aime
bien. Que c'est plutôt j'ai peur que tu deviennes trop trop belle et que tu me quittes.
Vous croyez?
Vous l'entendez
beaucoup.
J'ai
un peu de jalousie. Je l'entends tous les jours.
Ah, d'accord. Mais il n'y a pas que des opérations pour paraître plus jeune en même temps.
Exactement. Il y a aussi des opérations de changement morphologique. Et là, le sujet devient un petit peu plus sérieux parce que.
Pour les prothèses mammaires, on donne comme quoi comme excuse?
J'ai des insectes m'ont piqué.
C'est ça.
Des gros moustiques.
Non, mais en tout cas, pour les chirurgies de transformation. Par exemple, un vrai complexe comme la rhinoplastie, c'est vrai que d'en parler avant avec son entourage, les gens, ils peuvent avoir une image de vous, se créer leur propre image de votre résultat qui peut ne pas du tout être en adéquation avec ce que vous avez envie et les possibilités thérapeutiques. Et du coup, quand vous réapparaissez après l'ablation du plâtre et tout, ils peuvent être un peu déçus, ne pas vous le dire. Mais du coup, vous créez une sorte de malaise et vous pouvez mal vivre votre rhinoplastie. Donc c'est vrai que pour les chirurgies de transformation comme ça, où il y a un vrai complexe, je conseille de garder un peu secret.
Et puis après, une fois que c'est fait, éventuellement on débrief. Merci beaucoup, docteur Aurel Marco, pour cet éclairage. Franchement, très intéressant. Sur finalement les dessous de ces interventions qui sont de plus en plus pratiquées, mais qu'on ébruite pas toujours, c'est vrai. C'était vraiment très instructif, je trouve, d'avoir votre point de vue de spécialiste sur ce sujet. Merci beaucoup à tous les trois. Et donc, bien fait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment demain à 11h. Et Julia, demain, quel sera notre programme?
Alors, demain, Mélanie, dans Bien fait pour vous, on va s'intéresser à nos animaux domestiques, principalement nos chiens et nos chats. Comment les rendre encore plus heureux au quotidien? On va parler de leur santé, de leur nutrition, de leur bien-être, des tendances les concernant aussi, ces petites et grosses bêtes à poils qu'on aime tant. Ce sera une émission en partenariat avec le hors-série Animaux du Madame Figaro.
D'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques, si vous en avez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.